On va commencer. Il y a un diaporama qui va suivre. On va parler de quelque chose aujourd'hui, sujet d'actualité, sujet brûlant. C'est le moment du diaporama, Nicolas. C'est l'introduction. Si j'ai pas ça, non, ça ne met pas en péril le message, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si ça vous parle. La photo du milieu, c'est l'incendie de l'Aude de la semaine dernière. Et souvent, on sensibilise qu'un petit mégot peut créer ça. 17 000 hectares, si j'ai bien suivi. Un drame. Et j'espère que personne ne fume parmi vous. Bien qu'il fasse attention. Mais ce n'est pas le sujet du message. C'est une image qui est donnée et on va prendre, si vous avez vos Bibles, Jacques 3, versets 1 à 12. Vous allez comprendre le pourquoi du comment de cet incendie. Quand j'ai préparé ce message, ça faisait un moment que j'avais envie de parler de ça. Et il y avait une partie du texte, mais je l'ai pris dans sa globalité, et en le préparant, j'ai failli m'arrêter au premier verset et faire un message rapide en disant: Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et ben, je pouvais m'arrêter là et m'abstenir et vous laisser découvrir le reste du texte, mais je pense qu'il y a des choses à découvrir. Et que Dieu nous parle, que la parole de Dieu fasse son effet. Je continue de lire. Nous branchons tous, de plusieurs manières. Je sens quelle version, oui, c'est bon. Si quelqu'un, nous péchons tous, j'ai pas la même version. Non, c'est ça, j'ai fait un copier-coller. Mais dans. Ouais, bon, c'est nous péchons tous, je vais changer de version. C'est les erreurs du copier-coller du matin. Car chacun de nous commet des fautes. En Bible du Semeur, nous avons de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Car nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires, ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un tout petit gouvernail pour diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue est aussi un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, oiseaux, des reptiles, des animaux marins. Il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives? Ou une vigne, des figues, une source salée ne peut pas non plus donner d'eau douce. Sujet difficile, notre langue. Je ne sais pas vous, mais je vous le dis, quand j'ai préparé ce message, la première personne à qui ça a parlé, c'est à moi. Et encore, ce que je vais vous partager me parle à moi-même. dans ces quelques versets, on parle de la langue et plusieurs images sont données. Nous avons l'image des chevaux. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de l'équitation. Léa, tu as fait de l'équitation? Ça fait combien un cheval? 600, 800 kilos? Hein, 600? Nous, on est à côté. 45 kilos? Pas pour moi, bien sûr. Je parlais pour Léa. Oh, de suite. Et on monte dessus et cette bête nous obéit. Juste parce qu'il a un bout de métal placé au bon endroit. On tire dessus, il s'arrête. On tourne à droite, on tourne à gauche. Quelques-uns parmi vous ont peut-être fait du bateau, ont le permis bateau. Hein ? Quand on voit les immenses paquebots, il y a un gouvernail qui peut paraître assez impressionnant. Mais par rapport au bateau, c'est rien. Mais pourtant, il suffit. Hein, comme dans les films, on tourne le bateau pirate, là, comme ça, on fait comme le volant. Bon, les manœuvres en général sont pas. J'ai eu l'occasion une fois de conduire une péniche. Voilà, c'est quand même pas. On peut pas faire un créneau, quoi. Ça marche pas pareil. Déjà que les créneaux, des fois, c'est difficile. On n'a pas le compas dans l'œil. Mais bon. Et revient cette image du feu, de l'incendie. Que. La langue est comme un feu qui peut entièrement brûler une forêt. Waouh ! Et on voit les désastres que ça fait, surtout un écosystème. Et qu'est-ce que l'on peut voir pour nous aujourd'hui ? Dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. » Qu'est-ce que l'auteur de ce passage a voulu dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quiconque l'aime mangera des fruits. La première partie, je pense qu'on la comprend, c'est que avec la langue, on peut construire, on peut détruire, on peut apporter la vie ou apporter la mort. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est tout simplement ce que l'on va semer avec notre bouche, ben on le récoltera à un moment ou à un autre. Nos paroles sont comme des semences, elles vont produire des fruits, bons ou mauvais. Il n'existe pas vraiment de paroles neutres. Elles portent soit la vie, soit la mort. Donc du coup, on va voir un petit peu différents points. 5, des plus ou moins longs, sur ce qui sort de notre bouche. La première partie, ce qui sort de notre bouche. Dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans ce que nous disons, il y a plusieurs pièges fréquents. Pour ceux qui me fréquentent un petit peu, je vous encourage à me fréquenter un peu plus. Vous pouvez m'inviter après la semaine prochaine. J'ai un problème avec les gros mots. Oh, j'ai un problème. C'est que je reprends tout le monde. Un jour, j'ai décidé de plus en dire, parce que éducation un peu stricte, il n'y avait pas de gros mots. Puis, je suis un peu sorti de la maison, je me suis mis un peu à en dire, je me suis dit, mais pourquoi ? Donc, du coup, je reprends. Alors, je casse les pieds aux gens, j'ai des débats philosophiques sur... spirituel, on va même plus dire que philosophie, est-ce que c'est bien de dire les gros mots ? Il y a pas longtemps, j'étais à table avec quelqu'un et il me dit, mais il y a rien marqué dans la Bible. Et il n'y a pas vraiment marqué, tu ne diras pas, les gros mots. On me dit, oui, mais ça fait partie du vocabulaire, c'est la ponctuation. J'ai fait 4 ans à Marseille, hein. Donc, étonnamment, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, ça va parler, je l'espère, à chacun d'entre nous. Ça va parler dans les couples, ça va parler aux parents, dans comment ils parlent à leurs enfants. Et donc justement, première parenthèse, quand on parle à nos enfants, bizarrement, nous on dit des gros mots, mais eux, il ne faut pas qu'ils en disent. Oui, mais papa, il le dit. Balance. Posons-nous la question, pourquoi nous, on pourrait en dire et pas nos enfants ? On veut montrer l'exemple. les paroles douteuses, les blagues un peu déplacées, des insinuations, des sous-entendus. Ça paraît anodin, mais ça affaiblit un peu qui on est, notre autorité. Les mensonges, là je pense que je ne vais pas m'étaler, mais les mensonges, qui n'a pas eu un problème avec un mensonge, de ne pas dire une toute vérité, on nommait un petit peu certaines choses. Pourtant, Jésus nous dit que la vérité nous rendra libres. Dans 1 Pierre 3,10, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Dans Éphésiens 4,29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Matthieu 12, 36. Je ne savais pas que c'était dans la Bible celui-là. J'ai dû le lire, hein. Mais en préparant, je me suis dit, ah ouais. Aucune parole inutile. J'ai des progrès à faire. C'est bien. Pourquoi c'est important de ne pas dire de gros mots? Entre autres. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été représentants, sont commerciaux, je sais qu'il y en a certains. Lorsqu'on appartient à un groupe de personnes, on représente quelqu'un, on est un peu l'ambassadeur. Ben, ce que l'on dit compte énormément. J'ai un nouveau directeur. Et on avait l'ancien directeur qui portait une certaine classe. Et le nouveau a une certaine classe. Sauf dans ses expressions et dans la manière dont il parle. C'est un gars d'un village et il a des expressions un petit peu... Et ça nous choque. Il était sous-directeur, ça, je trouvais que ça correspondait. Mais là, maintenant, en tant que directeur, il va représenter mon établissement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis prof. C'est fait. Donc quand je parle de vacances, je sais de quoi je parle. Donc... ce que l'on dit reflète. Et nous, on est chrétiens. On est ambassadeurs de qui ? Ben de Christ, de Jésus. On retrouve ça dans 2 Corinthiens 5,20. Paul le dit clairement, nous représentons Christ sur terre. Ben il n'est plus là physiquement, présent pour servir les gens, mais Jésus agit à travers son peuple pour l'accomplissement de sa volonté. Son peuple, nous. Vous, nous, ensemble, on est ses représentants. Donc, ben que ce que nous allons dire va refléter Jésus. Est-ce que nos paroles, ce que nous disons, nos paroles douteuses, nos blagues douteuses, notre humour douteux, nos gros mots, notre vocabulaire, on va parler après derrière de ce qu'on peut dire aux autres. Mais déjà dans un premier temps, la vitrine, est-ce que on ne devrait pas faire attention et on ne devrait pas choisir nos mots avec sagesse? Si nous utilisons des paroles pour médire, calomnier, mentir, blesser, est-ce que nous ne reflétons pas le cœur et le caractère de Jésus? Mais lorsque nous utilisons des mots pour encourager, rêver, relever et fortifier, nos paroles deviennent un outil puissant pour faire du bien. Deuxième chose que, dans cette partie de ce que nous disons, passer des paroles aux actes. Il est facile de dire de belles paroles, mais Dieu nous appelle à plus, à vivre ce que nous disons. Une parabole qu'on trouve dans Matthieu nous parle de deux fils. Le père va voir le premier, il lui dit « Va travailler, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il lui dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'alla pas. Lequel a accompli la volonté de son père. Alors le premier a dit qu'il n'irait pas. Non, après il y était. Mais le deuxième, il dit « Oui, oui, j'irai. » Est-ce que des fois dans nos paroles, on parle, on dit qu'on va faire des choses et on ne les fait pas. Moi, je sais que sur ça, j'essaie d'y travailler, de dire des choses, de dire ben, oui, je vais mettre des choses en place, mais c'est difficile. Dans 1 Jean 3,18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Il faut parler comme Jésus implique aussi d'agir comme lui. Nos mots doivent être suivis par des actes qui confirment notre témoignage. Dans 2 Corinthiens 8, versets 1 et 5, Paul reprend les Corinthiens sur l'offrande. Il leur dit, vous avez fait des belles promesses, mais maintenant, on attend les actes. Si ça vous intéresse, hein, j'ai fait ma dernière prédication sur les offrandes, j'ai parlé aussi un peu de ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, certains se sont posé des questions, peut-être ont réfléchi, et c'est le moment de passer à l'acte. C'est important. On ne peut pas simplement dire, en tant qu'ambassadeur de Christ, on ne peut pas être simplement à dire « on va faire des choses ». Il faut qu'au moment ou un autre, les choses arrivent. Il faut des actions. Dans Matthieu 5, 37, « Que votre parole soit oui, oui, non, non, mais ce qu'on y ajoute vient du malin. » Les excuses, quand on dit quelque chose, qu'on le fasse et qu'on s'y tienne. Proverbe 10, 19, « Celui qui parle trop ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Un chrétien doit maîtriser sa parole, car il sait qu'elle est puissante, qu'elle reflète sa foi et qu'elle engage son cœur devant Dieu. Quelques filtres. Tout à l'heure, j'aurai une partie où je parlerai vraiment des filtres. Mais sur cette partie-là, est-ce vrai? Est-ce que ce que je dis est avec grâce et avec amour? Est-ce que ce que je dis, cela construit? Deuxième partie, parole de vie et parole de mort. La Bible est claire, nos paroles ont une puissance spirituelle énorme. Elles ne sont jamais neutres. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, elles portent soit la vie, soit la mort. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Quelles sont les semences que l'on veut faire? Est-ce que l'on veut avoir des graines plantées dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que ce sont des paroles qui encouragent, qui restaurent, qui fortifie, qui inspire, qui guérit? Ou est-ce que c'est une parole de mort, qui décourage, qui abat, qui blesse, qui détruit, qui étouffe la foi? Ça concerne les autres, mais je pense que ça peut nous concerner aussi. Attention aux paroles, même si c'est une habitude de dire « Oh, mais je suis nul !» Mais en fait, j'y arrive jamais. Je suis un incapable. La parole de Dieu nous invite à déclarer la vérité aussi, la vérité de Dieu sur nous, plutôt que des mensonges de l'ennemi. Ces paroles ont un pouvoir, et ce pouvoir est aussi d'annoncer la vie éternelle. Romains 19 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Une parole peut emmener quelqu'un vers Christ, peut aussi l'éloigner. Si nous parlons de l'amour de Jésus, si nous annonçons une bonne nouvelle, nous semons une vie nouvelle dans le cœur de chacun. Peut-être que ce matin, l'un d'entre vous, je ne vous connais pas tous, peut-être ceux qui écouteront ce message en podcast, et merci à Anthony et à l'équipe pour ces chants ce matin. Parce que dans tout ce qu'on a entendu, on a vraiment entendu le plan du salut. Et ce matin, tu peux réaliser que tu as entendu beaucoup, que sur ta vie, tu as beaucoup de paroles qui ont été dites, des paroles de mort. Peut-être que ce matin, tu n'as jamais confessé Jésus comme Seigneur. Ben aujourd'hui, ça peut être le point de départ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Simplement ce matin, dans ton cœur, tu peux proclamer peux demander pardon, proclamer que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que de suite, tu peux, à ton tour, semer des paroles qui amènent la vie autour de toi. Dieu a tout créé par sa parole. Jean et la semaine dernière nous parlait de ces hommes de foi, par la foi. Et dans Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on en voit ne provienne pas de ce qui est visible. Si Dieu a créé l'univers par sa parole, imagine l'impact de nos paroles, créées à son image. Nous ne créons pas l'univers, mais nous créons des atmosphères, des ambiances, un climat de confiance, un climat de paix, un climat de tension et de conflit. J'étais étonné hier, j'étais en train de préparer ce message. J'ai quelqu'un qui m'avait demandé de m'appeler. Cette personne, je l'ai rencontrée une fois. À la fameuse conférence, et ça m'a fait sourire, on mangeait à une conférence, et je me suis retrouvé à table, et j'ai débattu des gros mots à ce moment, à cette conférence. Donc ça a fait un lien. Et cette personne m'appelle, et il me partage sa situation, il va pas très bien. Et je me posais la question de me dire, mais pourquoi il m'appelle moi? Qu'est-ce qui fait que ce gars que j'ai croisé pendant un repas de trois quarts d'heure où je me suis, pas énervé, mais j'ai débattu avec quelqu'un qui me disait « on peut dire des gros mots, on est sous la liberté ». Clairement, c'était le discours. Pourquoi cette personne m'appelle? Et je préparais, je pense vraiment, qu'il y a, par nos paroles, on déverse la vie, on crée une ambiance, une atmosphère, un climat de confiance. Ces paroles qui construisent dans Éphésiens 4, verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nos paroles doivent élever. Elles doivent voir le potentiel. Parents, si vous avez un ado, que j'ai été, ou autre, c'est difficile. Il fait jamais ce qu'il faut. Il est en train de se construire, on est là. Il défie notre autorité presque. Mais voyons le potentiel des gens. Encourageons les mêmes dans l'échec. Quelqu'un qui passe peut-être par une période un peu de dépression. Proclamons qu'il peut s'en sortir. Si cette personne peut le devenir parce qu'il marche avec Dieu. Barnabas, qui avait un autre nom, j'ai oublié, était fils d'encouragement, je crois que c'est ça sa signification. Barnabas, il a été voir Paul. Paul qui faisait peur à tout le monde, il s'était converti, mais ils avaient tous peur. Et donc, les Juifs avaient peur, et donc Barnabas vient et l'encourage à aller vers les non-Juifs. Une parole d'encouragement peut changer, peut donner une direction, peut donner un appel. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait presque 20 ans que je suis prof, et j'ai fait venir des anciens élèves pour parler à mes nouveaux élèves de m'écouter, de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans leur carrière. Et on a un petit temps d'échange, j'ai trois anciens élèves, et c'était un petit moment où j'ai un retour positif, c'est assez rare dans la vie de prof, parce que les élèves réussissent, c'est grâce à eux, ils échouent, c'est à cause du prof. Un peu, c'est un dicton, on se le dit un peu, bon voilà. On n'a pas trop de personnes qui viennent nous taper sur l'épaule en disant « c'est bien, t'as bien travaillé ». On a des résultats, on a des échecs, c'est la faute aux élèves, nous aussi on fait pareil, on a fait ce qu'on a pu, on a des bonnes réussites, on dit aussi qu'on a fait ce qu'on a pu parce qu'on est humble, on ne va pas dire « on est bon ». Bon bref. Et donc ces élèves, je me prépare, c'est bientôt leur rentrée. Non, pas encore. Et j'ai un de ces élèves qui me dit, il revient de ça, je crois que je l'ai eu en 2006. Donc c'était 18 ans. Et il me dit, il y avait deux profs, moi j'étais en changement de matière, donc c'était assez difficile pour moi, j'étais le prof principal, je faisais beaucoup d'heures, genre je les avais au moins 8 heures, voire un peu plus, l'autre prof les avait que 4 heures. Et en fin d'année, il me dit, « Ah, l'autre prof, il est super technique, et toi, tu nous motives. » Sorti de là, ça m'a accablé. Parce que j'étais pas technique, c'était ma faiblesse. Et en fait, ce qu'il m'a dit est devenu mon slogan. La technique, ça s'acquiert. Il y a Google, il y a les forums. Oh non, il y a ChatGPT. Alors là, on est sauvés. Je n'enseigne plus, hein. Je fais démarrer ChatGPT, posez-lui une question, vous allez devenir intelligent. Bon, c'est pas important. La technique, bien sûr que je me suis amélioré, bien sûr que je leur donne des bases qui leur permettent d'être des futurs bons professionnels. Mais ce qui est important, c'est de les motiver, de leur donner des paroles qui vont les amener à grandir. Je vous parlerai d'un autre élève un peu plus tard, mais dans mon métier, je veux enseigner, mais je veux aussi être quelqu'un qui encourage. Et forcément, ça fait un peu le parallèle à ce que je fais ce matin dans la prédication. Je veux être quelqu'un qui encourage. Chaque mot est comme une graine que je jette dans mon couple, dans ma famille, dans mon église. Si je sème des critiques, je récolte de la méfiance. Mais si je sème de l'encouragement, je récolte la confiance et la croissance spirituelle. À l'inverse, on a les paroles qui détruisent. Mon oreille me dit, l'es toujours, tu es toujours comme ça. Tu fais jamais comme il faut. Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Je ne sais pas comment ça vous parle, cette épée, ce glaive qui blesse. Mais au moment où ça a été écrit, les proverbes, c'était la guerre. Il y a eu, si vous regardez tout le contexte géopolitique, hein, il y a eu des massacres, il y a eu des pays qui ont envahi, ils ont été pris par esclaves, des morts et tout, et ça a duré jusqu'à. Donc, nous, de nos jours, qui a une épée chez soi? David, moi j'en ai une belle épée, ouais, elle coupe, la mienne non. Mais bon, on se balade pas trop avec, hein. Mais bon, même si on a évolué, qu'on a des armes, j'espère que personne n'a sous son siège un fusil. Mais pourtant, on est équipé de quelque chose qui blesse comme un glaive. Et on verra après la langue du sage qui apporte la guérison. Les blessures par les paroles sont parfois plus profondes, plus durables que celles du corps. Hein, juste comme ça... Tomber dans un trou, se faire une fracture de la rotule, ça guérit. Regardez, je suis rétabli. C'était il y a un an et demi. On s'en remet. Mais des paroles profondes, une critique humiliante devant tout le monde, un sarcasme, une phrase blessante peuvent marquer quelqu'un pour des années. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Quel professeur a dit que tu étais un incapable? Quel coach? Quel parent? J'accueille Thomas dans ma classe, qui arrive et pourquoi tu es avec nous, Thomas? Il dit, ben, je pensais pas avoir le bac, on me dit que j'aurai jamais mon bac. Et j'ai mon bac. Thomas est en BTS. Thomas n'arrive pas à travailler parce que Thomas est un incapable. Il est programmé par son papa qui lui dit, tu n'y arriveras pas. Pourtant, c'est un garçon intelligent. Il a, a priori, pas beaucoup bossé, il a eu son bac. Pas a priori, il n'a pas bossé son BTS, il a eu son BTS. La vie est injuste, peut-être, certains me diraient, mais ce garçon avait une parole de « tu n'y arriveras pas ». Mais réfléchissons, peut-être que nous avons aussi ces paroles. On se rappelle qui nous l'a dit, quand on nous l'a dit. Des fois, on en rigole, on a pris un peu de recul. Mais je crois vraiment... Aujourd'hui, on peut déposer ces paroles. Car ce que nous dit la Bible sur qui nous sommes, sont des paroles de vie. Dieu voit à notre potentiel. Dans Proverbes 16, 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Les mots peuvent ramener quelqu'un à la vie, dire « Je crois en toi, je suis fier de toi, je t'aime. » Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère, nous dit Proverbe 15. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Que voulons-nous ? Avoir des paroles qui apportent la vie ou des paroles qui apportent la mort ? Ces paroles vont façonner nos relations, notre famille, notre équipe, notre couple, à notre travail. Dieu nous appelle à être des sources d'eau vive par nos paroles et pas des sources amères. Quels sont les filtres que l'on pourrait avoir avant de parler ? C'est ça qu'il faudrait. Je ne sais pas vous, je ne suis pas assez souple. On nous dit de faire tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant. Bon bref, soyons pragmatiques. Jacques 1, 19. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Avant de parler, demandons-nous, est-ce que ce que je vais dire honore Dieu ? Est-ce que quand je le parle pour attirer l'attention, pour sembler avoir de la valeur, quand je viens ragoter, quand je viens raconter les cancans, quand je viens rajouter plus les personnes qui ont toujours la meilleure histoire, etc., etc. Est-ce que, en premier point, est-ce que cela honore Dieu ? Est-ce que ça va encourager mon prochain ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Ou est-ce que je ne suis pas juste en train de vider mon sac ? Est-ce que la personne est prête à entendre ce que je vais lui dire ? Moi, c'est des fois les questions que je me pose. Des fois, les personnes n'en sont pas là où on va leur dire des choses, mais en fait, elles ne nous l'ont pas demandé, elles ne sont pas renseignables. Est-ce que ça correspond à un besoin ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que ça va construire notre relation ? Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Attention, grosse mise en garde, les toujours et les jamais, qui blessent, qui donnent un caractère immuable. Je l'ai noté, je l'ai oublié. Hein. Le chant disait, jamais, toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Ça ne me dérange pas qu'on le dise à Dieu, parce que lui, il est immuable. Mais quand on s'en sert pour parler à celui qui est à côté de nous, notre frère, notre sœur, notre mari, notre femme, nos enfants, attention à ces mots. On peut les remplacer. On peut dire d'autres choses. Avoir l'avenir, avoir le potentiel. Un mot vraiment, vraiment difficile à dire. Je ne sais pas vous, hein. Ça coûte. Je te demande pardon. Je m'excuse. Celui-là est plus facile à dire. Je t'aime. Quand on est amoureux, on dit à chaque fin de phrase. Mais est-ce qu'on peut le dire dans une situation un peu plus compliquée ? C'est compliqué en ce moment, mais sache que je t'aime. Sache que je suis fier de toi. On le pense souvent. Des fois, on voit. Moi, je sais que j'ai marqué sur mon téléphone. Hein. Je dois dire à mon papa que je suis fier du papa qu'il a été pour moi. On doit dire ces genres de choses. Je crois que tu peux y arriver. » des paroles pour construire, pour parler au potentiel et guérir. C'est mon dernier point. Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Construire, dire à quelqu'un ce qu'il peut devenir en Dieu, non ce qu'il est dans ses faiblesses actuelles. Il le sait, il le voit qu'il est dans des faiblesses. Pourquoi lui redire? Pourquoi insister? Mais voyons les personnes avec le regard de Dieu, de ce qu'ils peuvent devenir, du potentiel qu'ils ont. Quelques exemples. Dieu va voir Gédéon, et si vous lisez dans Juge 6, peut-être, Gédéon ne se sentait pas du tout, mais je suis le plus petit de ma plus petite famille, etc. etc. Il dit, va vaillant héros, avant qu'il aille combattre. Jésus rappelle à Pierre qu'il sera un roc. Avant qu'il prêche à la Pentecôte, Pierre le renie. Il a besoin de le rétablir. Il voit ce qu'il va devenir, un pilier pour l'Église. Acte 2, 3000 personnes qui s'ajoutent à l'Église. Guérir une parole bien placée peut relever un cœur brisé. Notre exemple, Jésus, dans Jean 8. Jésus, face à la femme adultère, aurait pu l'accuser. Au lieu de ça, il a parlé avec grâce. Va et ne pêche plus. Une parole de vérité et d'espérance en même temps sur ce qu'elle peut devenir. Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Notre langue peut apporter ce baume. Nous pouvons changer l'atmosphère dans nos foyers, dans notre travail, dans notre église, simplement en veillant par nos paroles. Je voudrais conclure. Les paroles que l'on sème, vous m'avez raconté cette image, c'est comme des plumes qu'on jette en haut de la tour Eiffel. Elles sont jetées. Et si on dit, vas-y, cherche-les, récupère-les, c'est impossible. On a besoin de veiller sur ça. Et si, je le pense, comme moi, on peut grandir. Nos paroles ne sont jamais neutres. Elles construisent ou détruisent. Si nos mots blessent, demandons pardon et décidons aujourd'hui de semer la vie. Quand nous blessons, soyons prompts à demander pardon. Mais qu'on puisse aller de progrès en progrès. Nous représentons, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Réalisons cela. Nous devons parler comme Jésus, avec vérité, avec grâce, pour bâtir et relever. Quelques versets. Je vous le dis au jour du jugement, des hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Psaume 141, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, dans Psaume 34, en version Semeur. Et Matthieu 15, 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Merci à ceux qui ont pris des notes. Pour ceux qui n'en ont pas pris, vous aurez l'enregistrement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Nous avons vécu, nous avons souffert de ça. Qu'on puisse. Et pas seulement s'engager, nos paroles nous engagent. Passons des paroles aux actes. Travaillons en ça. Demandons, faisons une prière quotidienne. Que le Seigneur veille sur nos lèvres, veille sur notre langue. Père éternel, merci. Merci pour ce que tu nous laisses pour ce passage dans Jacques qui nous demande de veiller. Et combien c'est un sujet qui me parle et un sujet qui... On a tous été affectés. On veut vraiment que nos paroles servent à construire, à apporter la vie, à guérir, à changer l'atmosphère. Nous voulons être ses ambassadeurs. Nous voulons être ses représentants qui témoignons, pas seulement en parole, mais en acte, dans ce que nous allons pouvoir faire, dire. Ne soyons pas dans les blagues douteuses, dans les médisances, dans les ragots, mais soyons ces personnes qui apportons la vérité, qui apportons un message d'espoir et de vie. Viens nous aider à veiller sur tout cela. Amen.